13h-14h, Michel Cardoz, Histoire des Suds, sur Sud Radio.
Décembre 1851, de la Provence à la Gascogne, résistance, insurrection, face au coup d'État de Louis-Napoléon. Nous en parlons depuis le début de la semaine avec René Merle, historien spécialiste de cet épisode relativement peu connu de notre histoire, créateur du site avec d'autres, 1851.fr. Vous retrouvez tout, absolument tout, texte des uns et des autres, récits historiques, romans, témoignages d'époque, études contemporaines, sur ce site, 1851.fr. Comme sur le site d'ailleurs personnel de René Merle, René-Merle, le tout sans accent et en minuscule, .com, René-Merle.com. Bien. Finalement, l'insurrection, la révolte, René Merle, va échouer en 10 jours à peu près. La défaite se manifeste comment ? Par des arrestations, par la violence, par des emprisonnements ?
La défaite va se manifester parce qu'une, par une terrible chasse aux rouges, une véritable chape de plomb qui va s'abattre sur les populations des régions insurgées et qui va les amener à voter oui, massivement, par peur et surtout par désir que les arrêtés soient libérés rapidement.
Parce que le plébiscite de Louis-Napoléon pour faire approuver son coup d'État vient très très vite.
Il est dans la foulée, donc fin décembre, ce qui permet aux hagiographes de Louis-Napoléon aujourd'hui de dire, mais enfin, ce garçon a été élu.
Non seulement il a été élu, mais il a fait approuver son coup d'État après. Voilà. Donc les mêmes populations qui s'étaient insurgées, globalement, en dehors de ceux qui étaient en prison, ou qui étaient déjà, qui sont morts, ou qui n'ont pas voté, qui se sont abstenus, ont voté oui au plébiscite de Louis-Napoléon.
Un chapeau, quand même, un coup de chapeau à la petite localité de Vernoux, dans l'Ardèche, qui ne s'est pas insurgée, mais cette localité protestante et légaliste, donc, a voté non.
Malgré son légalisme.
Ou à cause de son légalisme.
Par fidélité à la Constitution violée par Louis-Napoléon. Alors, il y a eu des condamnés, on a des chiffres.
Ils sont assez impressionnants. Par exemple, un petit département comme les Basses-Alpes, avec 155 000 habitants, vous avez des milliers d'arrestations, et vous avez presque 1 700... emprisonnés et déportés.
C'est-à-dire plus de 10% de la population.
C'est énorme.
Si je ne me trompe pas.
On n'a pas exagéré que, vous savez que la cueillette des olives se fait à ce moment-là, dans notre midi, que des villages entiers n'ont pas pu ramasser les olives parce qu'il n'y avait plus d'hommes.
Il y a eu des emprisonnés, ne sont pas restés en prison éternellement. Ils ont été...
Non, il y a eu, dans le palmarès, si je puis dire, vous avez la Drôme qui a 1700 inculpés sur 300 000 habitants, l'Hérault 2700 inculpés sur presque 400 000 habitants, le Var, énorme, 3200 inculpés sur 358 000 habitants, ça fait quand même un trauma. Ces gens-là, soit on les a envoyés en Algérie, pour la plupart, comme on disait, transportés.
Ils sont transportés.
Transportés. Oui. En Algérie, c'était ou des camps de travail, ou des possibilités de devenir colons à terme, si on était sage, et donc de taper un peu sur le bougnoul quand même.
Beaucoup se sont installés
en
Algérie.
Non. Il y a eu une déperdition, parce que la politique officielle était de coloniser l'Algérie avec des néo-habitants. Ils ne se sont pas faits aux conditions qu'on leur proposait. Beaucoup sont retournés. La plupart des pieds noirs qui descendent d'insurgés, beaucoup se manifestent auprès de notre association. Ce sont des gens qui, en fait, descendent d'insurgés, qui ont été envoyés en Algérie, qui, au bout de 4, 5, 10 ans de... ont été libérés, sont revenus en France. Mais la surveillance était telle que les maires conservateurs des localités disaient à ce type, je ne veux plus le voir. Ah oui. Il a une mauvaise mentalité. C'est un républicain. En 1958, on en a renvoyé toute une fournée en Algérie.
1858.
Et là, oui, je confonds avec un autre, mais algérien. Et là, ils sont restés en Algérie. Et ils sont restés républicains. Il y a une tradition de de colons républicains en Algérie.
Voilà, qui a affronté la guerre de manière différente, on va dire. On n'entre pas dans ce domaine historique, c'est un autre sujet. Comment le régime s'est servi des révoltes? Il les a diabolisées, on a vu quelques récits.
C'est la jacquerie, c'est le... Alors que la révolte, manifestement, était un résultat de la politisation, donc de la modernité des mentalités campagnardes, le régime en a fait une sorte d'émanation moyenâgeuse de la jacquerie ancestrale, de la révolte des très pauvres contre les gens aisés, des partageux, etc. Ça a marché pendant une dizaine d'années, mais ça n'a pas pu vraiment fonctionner, parce que d'une façon extrêmement tenace, et à travers ce cadre communal dont nous avons parlé... Très rapidement, les communes insurgées se sont redotées
de maires
plutôt républicains, etc., etc.
Et au moment de ce qu'on appelle l'Empire libéral, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du Second Empire,
1865,
est-ce que ces communes du Midi qui s'étaient insurgées, sont restées dans l'opposition à l'Empire?
Tout à fait. Et y compris les villes qui n'avaient pas pu s'insurger pour différentes raisons, comme Marseille en particulier, seront des places fortes électorales de l'opposition.
À l'Empire.
C'est très net.
De Louis-Napoléon. Alors, Louis-Napoléon et ses collaborateurs, ses amis, son gouvernement, a prononcé une amnistie. Elle est venue. Et pourtant, certains opposants au coup d'État, eux, n'ont pas voulu en profiter. On a l'exemple de Victor Hugo, qui lui est resté sur son rocher anglo-normand.
Très rapidement, Louis-Napoléon, qui au fond c'était pas Pinochet, a compris que une politique d'ultra-répression le desservirait. Donc il a poussé à ce que les procureurs, nous en avons vu un exemple là, que les procureurs ne soient pas trop méchants.
Sévère, pas méchant.
Donc il a envoyé des commissions départementales examiner cas par cas. Il y a eu beaucoup de libérations au début de 1852, ce qui explique que, par exemple, dans les Basses-Alpes, où on a arrêté des milliers de gens, il n'y a eu que, je mets des guillemets, 1500 personnes maintenues en prison.
On va marquer une pause, si vous voulez. Histoire des Suds, nous sommes en décembre 1851 et notre invité René Merle est impatient de poursuivre son récit. Puisque nous participons, nous faisons le récit de cette insurrection qui se soulève contre le coup d'État de Louis-Napoléon. Nous en sommes à la défaite des insurgés autour du 12 décembre 1851 et dans les mois et les années qui ont suivi. Nous faisions allusion, René Merle, au fait que dès que l'Empire, au fond, a pu le faire, une amnistie assez large a été prononcée, des commissions d'enquête ont opéré dans les départements. Certains insurgés sont restés en prison tout le temps, et en exil, déportés à Cayenne ou en Algérie, transportés, comme on disait. Mais certains hommes qui s'étaient soulevés contre le coup d'État sont devenus ensuite des hommes politiques légaux, je dirais. Et vous avez un exemple sous la main?
Oui, je pense par exemple au contraste entre Victor Hugo et Émile Ollivier, qui fut une des figures emblématiques de la Révolution de 48 et de ce courant démocrate-socialiste. Que faire? Dans la mesure où l'Empire apparaissait désormais éternel, dans la mesure où l'Empire connaissait une réussite économique évidente, dans la mesure où l'Empire adoptait une politique sociale relativement ouverte, c'est quand même Napoléon III qui va tolérer les grèves, légaliser l'internationale ouvrière, etc.
Je crois qu'il va payer le voyage des représentants de l'internationale à Londres. Voilà, c'est ça.
Ces gens-là se disent... n'est-il pas plus payant, au bon sens du mot, de participer à la vie politique et d'obtenir des réformes dans ce cadre-là, puisque l'Empire lâche du lest, que de rester sur le rocher et vitupérer?
Alors, c'est ce que fait Émile Ollivier.
C'est ce que fait Émile Ollivier, qui va finir Premier ministre de l'Empire à la veille de la chute de l'Empire, à la veille de cette catastrophe guerrière de 1871, que Olivier n'avait pas du tout anticipé, puisqu'il pensait comme l'empereur que la guerre qu'ils avaient suscitée serait une promenade militaire.
Et qu'il vaincrait l'Allemagne.
Mais là, nous sommes dans le domaine des ralliements dont la vie politique ancienne et moderne nous offre d'innombrables exemples.
Certes. Oui, mais c'est pas seulement un ralliement de soumission, c'est pas aussi un ralliement qui croit à une forme d'action politique.
Un ralliement qui veut être un ralliement d'efficacité.
Et le Second Empire a une image, il a eu plusieurs images de le Second Empire. Hein.
Oui.
Victor Hugo a contribué de manière puissante et inégalée à bâtir une image négative, noire.
Oui.
Il est l'auteur de la légende noire, si légende noire il y a, du coup d'État et du Second Empire. C'est lui qui a inventé le mot badingué, non, je crois. Pas tout à fait, non, il l'a popularisé.
Il l'a popularisé.
Le mot badingué pour désigner Louis-Napoléon. Bon, il a qualifié...
On ne peut pas lire Souvenir de la nuit du 2 décembre. Sans avoir la larme à l'œil.
Bien sûr, et beaucoup de poèmes des châtiments sont des chefs-d'œuvre. Bon, ça c'est Victor Hugo et la critique terrible du Second Empire. Bon, mais il y a aussi des réalités qui plus des réhabilitations aujourd'hui qui sont plus contemporaines. Le nombre de livres de biographies sur Louis Napoléon III est considérable dans les 20 dernières années.
Je pense en particulier à l'apologie raisonnée qu'en a fait Philippe Séguin, qui est un livre tout à fait intéressant. Qui occulte l'aspect, disons,
autoritaire,
répressif du début, en le faisant passer au porte-profit des réussites ultérieures.
Mais ces réussites existent.
Ah, tout à fait.
Mais
l'entrée dans la France moderne, au plan économique, voire social, ce sont les années 1860-70.
Alors, un siècle et quelques après ce coup d'État. Vous fondez une association avec d'autres historiens, beaucoup d'historiens, et pas seulement des historiens du Var et du Midi de la France, pour, au fond, réveiller le souvenir et l'étude historique scientifique de cette insurrection et de ce moment très bref de notre histoire. Et dans la foulée, outre le travail des historiens, des commémorations ont lieu, très officielles, et ne provenant pas de secteurs politiques contemporains, forcément favorables à l'insurrection ou à la violence des Rouges, comme vous le dites depuis le début de la semaine.
Oui, moi, j'ai souvenance d'un conseiller général du Var qui me disait « Bon, nous allons célébrer comment dirais-je ?» Parce que c'était quand même une insurrection. Donc, mais il est vrai que... autour du souvenir du 150e anniversaire de l'insurrection, se sont réunis des gens de presque toutes obédiences, de droite ou de gauche. Le conseil général du département du Var, sauf quelques conseillers d'extrême droite, a unanimement œuvré, nous a aidés considérablement pour cette célébration, par exemple.
Oui, et il s'agit de Monsieur Falco, je crois. Hein,
c'est ça.
Qui s'est associé à cette célébration.
Oui. Alors qu'on peut le dire, d'autres régions ou conseils généraux marqués clairement à gauche n'ont pas jugé cela intéressant. Donc c'est pour vous montrer que les choses sont complexes.
Et pourquoi, au fond, cette insurrection, ce moment très bref, mais très intense de la vie politique dans nos régions méridionales, est un peu, je ne dirais pas un cadavre au placard, mais quelque chose...
Un petit peu, oui.
Mais pourquoi c'est comme ça?
Ben, moi je renvoie à ce petit noyau d'amis qui depuis s'est beaucoup grossi, mais je pense à mon ami Colette Chauvin ou au Mai, qui est une ville emblématique dans les Basses-Alpes.
Oui, près de Fort-Calquier.
Je pense à mon ami Négrel, qui est le responsable du site et qui est professeur dans le Haut-Var, donc à Ops, la bataille d'Ops.
Il y a un monument
Il y a un monument. Je pense à mon ami Jean-Marie Guillon, qui est un historien de la résistance varoise et... fidèle de cette période. Je pense à tous ces gens-là. Ce qui nous a réunis, en fait, c'est une fidélité à des valeurs. À des valeurs qui n'étaient pas inconnues, mais que nous voulions remettre en circulation citoyenne, comme on dit, essentiellement dans ce sud-est, qui avait mauvaise réputation. C'est le moment où certaines municipalités passent à l'extrême droite. C'est le moment où les affaires, les collisions avec le milieu font que beaucoup de Français disent « Ah, c'est ça le Midi ».
C'est ça
le
Var.
Nous avons voulu montrer qu'il y avait également une tradition républicaine.
On marque une pause. Histoire des Suds, décembre 1851, de la Provence à la Gascogne, et au nord, dans le Cher, à l'est, dans la vallée du Rhône, dans les Basses Alpes, la révolte, l'insurrection contre le coup d'État de Louis-Napoléon, qui avait été élu quelques années plus tôt président de la République au suffrage universel. Oui, mais ces révoltes, ces insurrections, ont été défaites, battues, au bout d'une douzaine de jours. La répression s'est abattue, certains combattants de la République ont été emprisonnés, d'autres transportés, on ne disait pas déportés, ils ont été transportés jusqu'en Algérie, jusqu'à Cayenne, avec nous René Merle, historien de cette période. Vous avez comme ça, dans votre sacoche, dans votre besace, non pas des grenades offensives d'insurgés, mais quelques souvenirs, quelques figures qui, dont le destin prête à réfléchir, peut-être.
Ce destin me sert à essayer de comprendre ce que j'ai vécu en tant que citoyen depuis ma naissance en 1936, en me posant toujours la même interrogation, qu'est-ce que j'aurais fait et qu'est-ce que je serais devenu à travers cela ? Alors, ces gens qui ont participé à l'insurrection, qui en ont été durement punis, et qui, par la suite, soit se sont exilés, ils sont restés à tout jamais, comme notre ami Campdoras,
dont vous avez raconté l'histoire,
ou qui sont revenus, et qui ont, pendant un certain temps, été considérés comme des pestiférés, surveillés, etc. Comment ont-ils réagi lorsque la République est revenue en 1870 et que cette République est revenue par surprise, parce que si l'Empire n'avait pas été, si l'Empereur n'avait pas été capturé à Sedan dans une bataille lamentable, probablement, peut-être serions-nous encore sous Napoléon VIII, je ne sais pas. Bon, ils ont réagi d'une façon extrêmement différente. Il y a ceux qui ont dit, voilà, on a suffisamment donné, maintenant on se repose.
Alors celui-là, il devient farmer au Kansas, ouais, par exemple.
Oui, mais même en France, ils deviennent des hédonistes. On peut les retrouver faits libres, versifiant en provençal, mais surtout pas en politique. On peut les retrouver faisant des affaires, devenant des entrepreneurs, etc. Il y a ceux qui se disent, voilà, on s'est battu pour quelque chose qui est en passe d'être réalisé avec la République radicale. Au fond, la République radicale, elle a mis beaucoup d'eau dans son vin par rapport au programme radical, qui était à peu près celui des Rouges de 1851. Mais on peut pas faire mieux à l'époque.
Il aura quand même fallu attendre les années 80,
voilà,
du 19e siècle.
Je pense à un homme comme Cotte dans le Var, qui fut préfet de la Première République, et aussitôt cassé par les conservateurs de tir, etc., et qui disait, voilà, il faut être réaliste, je suis réformiste et j'assure mon réformisme. Ce n'est pas la République que je souhaite, mais c'est la République, la seule République que l'on puisse instaurer.
Mais je vais faire avec.
Et je vais faire avec, et puis doucement, doucement, on l'améliorera. Et puis, il y a ceux qui ont campé sur leur terre, si je puis dire, qui ont dit non, c'est pas du tout la République dont nous voulions, et donc il faut chercher ailleurs. Alors, ailleurs où ? Alors, c'est très paradoxal, parce qu'on en retrouve quelqu'un qui avait 20 ans, 30 ans, 51, c'est un homme fait au début de la Troisième République. Sans plus, ce n'est pas un vieillard. Donc, on en retrouve qui deviennent socialistes. Le socialisme apparaît comme courant politique véritablement à partir des années 70-80, et qui envisage donc une république socialiste. Il y en a très peu qui choisissent ce courant. Il y en a qui deviennent anarchistes. Il y en a aussi qui deviennent boulangistes, qui pensent que le général Boulanger est un... Par exemple, dans le Var, on a des cadres boulangistes qui sont d'anciens cadres de 1851. Or, qui dit boulangisme égale... Entre autres, antisémitisme, par exemple.
Pour rappeler que le général Boulanger, à la fin du 19e siècle, a tenté voilà, au fond, d'étrangler la République. Voilà. Je résume, mais...
Voilà. Je pense à quelqu'un qui n'a pas connu directement la Commune, mais qui aurait pu la connaître, comme Cluseret, qui est le général Cluseret, qui a été un des généraux de la Commune et qui est devenu député du Var par la suite, et qui a fini antisémite acharné et député de droite. Donc, l'itinéraire d'un individu n'est pas déterminé par ce qu'il a pu faire, aussi héroïque que ce soit, à 20 ans ou à 30 ans. Et il y a un tas de gens qui, s'ils avaient été abattus par l'armée à Ops, par exemple, en 1851, seraient considérés comme des héros, leur nom serait sur la colonne, et qui aujourd'hui sont volontairement oubliés parce que leur fin n'était pas aussi glorieuse que leur début. Donc il y a tout un éventail qu'il faudrait cas par cas examiner, mais qui me laisse non pas sceptique, mais qui me laisse
qui ne vous laisse pas
réservé,
relativiste,
voilà,
qui
voilà.
ne vous laisse pas relativiste,
voilà.
mais qui vous
voilà.
laisse réservé,
tout à fait,
avec un jugement critique.
D'autant que, bon, en tant qu'historien, je n'ai pas de jugement à porter, mais en tant que citoyen, je peux avoir un regard, bien sûr.
Oui, oui. De toute évidence, votre voilà. regard va à la sympathie,
oui, oui,
à la
à
sympathie
fait.
Pour l'insurrection.
Tout à fait.
Parmi les figures qui demeurent de ce moment historique, j'ai repéré dans votre site celle du dernier insurgé.
Ah.
Il était vivant encore en 1913. Il a participé aux commémorations. Alors, avant de parler de lui, on parlera peut-être de lui tout à l'heure. Les commémorations, est-ce qu'elles ont toujours eu lieu dans le Midi provençal ?
Non. Les insurgés, l'historien bien connu Maurice Agulon l'a pointé depuis longtemps. Les insurgés ont bénéficié d'une double occultation. D'une part, c'était des insurgés. Donc même pour les républicains modérés de la suite,
peu
c'était quand même prendre un fusil. Et puis pour les socialistes et plus tard communistes, c'était des insurgés, mais en fait ils ne voulaient pas la révolution socialiste. Donc c'était quand même
des oiseaux.
Voilà, c'était pas. Donc ils n'ont été magnifiés ni d'un côté ni de l'autre.
Et il a fallu attendre que le Var est le Midi en général est une Midi méditerranéen prenne une mauvaise réputation dans
non,
les...
non pas déjà encore. En 1882, il y a eu une loi de réparation historique, c'est-à-dire que la République a accepté de donner une pension aux anciens insurgés ou à leurs familles. Mais ça s'est fait assez discrètement sans autre tralala. Il y a eu quelques initiatives locales, érection de monuments, etc., dont celui des Mèzes parce qu'on dit les Mèzes.
Oui, les Mèzes.
En 1913, mais sans plus. Il n'y a jamais eu de commémoration nationale. Et même, ça c'était sous le gouvernement de Lionel Jospin, nous avons bataillé pour qu'il y ait une commémoration nationale, ne serait-ce que c'est un timbre. Et nous n'avons jamais pu l'obtenir.
On marque une pause. Histoire des Suds, nous sommes en décembre 1851 et suivant, les mois suivants, les années suivantes. En décembre 51, de la Provence à la Gascogne, une insurrection, un soulèvement, une résistance s'organise face au coup d'État de Louis-Napoléon, président de la République élu au suffrage universel, qui veut prolonger son mandat contre la Constitution qui ne le lui permettait pas. S'ensuit le Second Empire, mais dans l'immédiat s'ensuit une révolte et une répression au bout de 12 jours. Destin étrange, destin divers de ces insurgés. Beaucoup ont fait de la prison, beaucoup ont été transportés en Algérie ou à Cayenne. D'autres se sont évadés, ont vécu aux États-Unis. D'autres sont revenus en France et ont cultivé cette mémoire. Parmi eux, au moins un que j'ai trouvé sur le site de l'association qui rassemble les documents et les études historiques sur ce moment de notre histoire, 1851.fr, c'est le site internet, le témoignage d'un certain François Barbarin, qui a 83 ans est présent au Mez, alors on prononce Mez, René Merle, hein, c'est
on
bien ça. On prononce Mez, donc c'est un village juste en venant de Parapte, juste avant Fort-Calquier, si ma mémoire est bonne.
C'est une localité au débouché de la route de Digne sur
voilà.
la Durance.
Alors, en 1913, on inaugure un monument qui commémore cette insurrection, et ce François Barbarin a 83 ans, il est le dernier insurgé condamné, encore vivant. Et il reçoit ce jour-là la croix de chevalier de la Légion d'honneur. C'est-à-dire que la République radicale, dont vous parliez tout à l'heure, est reconnaissante, d'une certaine manière, à cet insurgé. Il est même conseiller municipal dans une commune qui s'appelle La Javie. Et voilà qui illustre le propos que vous teniez au début de la semaine, à savoir que c'est dans les échoppes de cordonniers qu'on faisait de la politique. Ce garçon, à 20 ans, était cordonnier domicilié à Valensole. Et vous dites dans le site, il est affilié. Ce qui veut dire qu'il est affilié à une société secrète, oui. Pour le moins.
Oui.
Voilà, alors il témoigne au cours de cette inauguration en 1913, et il raconte, je ne vais pas lire l'ensemble de son allocution, mais il dit, voilà, rentrer dans mes foyers, il a fait son service militaire, il a été licencié de la garde nationale en 49, donc pendant la révolution de 48. Il va résider à Valensole en 1851, étant à Valensole, je me fis inscrire à la société La Montagne. Cette société dont le siège était à Lyon avait été créée dans le but de maintenir la République proclamée le 24 février 48. Le coup d'État ayant été accompli, l'ordre nous fut donné de protester par tous les moyens en vertu de l'article ainsi conçu.
L'ordre,
voilà, dans la société secrète, on donne cet ordre-là. En cas de violation de la Constitution, tout bon citoyen a le devoir de prendre les armes pour la défendre. Ayant été vaincu, et donc il passe sur les faits lui eux-mêmes, ayant été vaincu avec un grand nombre de camarades, je fus fait prisonnier le 20 décembre 1851, incarcéré à Digne, dans un local du Grand Séminaire où nous couchions sur le carreau par une température de 20 degrés au-dessous de zéro. J'eus les pieds gelés à tel point qu'il ne formait plus qu'une plaie. Parti de Digne le 2 mai, donc 6 mois après, 2 mai 52, nous avons été conduits à Toulon sous bonne escorte, enchaînés les uns aux autres par les mains et le cou, non point comme des condamnés de droit commun, mais comme on enchaîne autrefois les bandits peuplant les divers bagnes. Alors il raconte qu'il passe 12 jours au fort de la Malgue, transféré sur les pontons, nous avons couché pendant 45 jours dans l'eau. Avant le départ pour l'Algérie, nous fûmes contraints de prêter le serment de fidélité à Napoléon.
Oui, oui.
Et quelques camarades âgés ou laissant chez eux une famille sans ressources avaient, afin de bénéficier d'une grâce, prêté le serment exigé. En ce qui me concerne, comme je n'avais plus de famille et n'ayant aucun intérêt, j'avais alors 20 ans et quelques mois, je refusais de prêter ce serment dans des termes si violents que je fus immédiatement enfermé, à fond de cale, avec quelques autres mutins. Déportés en Algérie, nous avons été occupés au défrichement et à la construction de routes. Voilà qui confirme ce que vous nous racontiez, René Merle. C'est un témoignage qu'il a fait donc plus d'un demi-siècle après.
Oui, le témoignage de Barbarin, de ses... C'est un de ces humbles qui, comme il le dit, a fait le devoir de résister.
Auquel il s'était engagé.
C'est la valeur de résistance qui est inscrite dans notre Constitution, d'ailleurs. Comme est inscrit le mot de... Comme sont inscrits les termes de république démocratique et sociale, et laïque.
Vous avez une autre figure sous la main, certain Bidouré.
Je pense à ces gens, enfin, ces vétérans, à ces derniers qui ont pu assister... aux commémorations de la fin du 19e, du début 20e, comme c'était des méridionaux, on les a souvent caricaturés.
Mmh.
Par exemple, en 1882, lors de l'élection de la colonne, de la pyramide d'Ops, se sont retrouvés deux insurgés qui ne s'étaient plus vus depuis 1851, parce qu'ils habitaient des localités très, très éloignées. Et donc, ils avaient été fusillés sur place par les gendarmes, mais mal fusillés, si je puis dire. Et ils se sont réveillés quelques heures après. Leur conversation est devenue historique dans le Var, mais elle a fait rire les journaux parisiens parce que l'un a ouvert l'œil, a regardé l'autre, et il lui a dit « Sias mort, Toan ?» Et l'autre a répondu « Nous, et tu ?» Et donc, ça tourne à la galéjade alors que nous sommes dans
du sérieux.
Quand même. Ah oui, dans plus que du sérieux. Et Martin Bidouré était un jeune émissaire des insurgés d'Ops. Il était envoyé pour prévenir des insurgés d'un village voisin. Il est coincé par la troupe, il est fusillé sur place. Il est sabré et fusillé sur place. Et ils n'ont pas tué, ils se traînent sanglants après le passage de la troupe vers une ferme où il est recueilli, vaguement soigné, on l'amène à l'hôpital d'Ops, mais la troupe était déjà à Ops, et on le refusille. On le colle contre un mur, on le fusille. Et Bidouré, ses dernières paroles furent « Neiprung, j'en ai assez », on l'a fusillé. Et ça fait rigoler tout le monde lorsqu'on parle de cela en dehors du Var. Martin Bidouré, dont le monument à Barjol a été le monument de rassemblement des résistants en 1943-44, c'est quand même un type qui a été fusillé deux fois. Bon, ces méridionaux, ils exagèrent toujours un peu. Voilà, donc je pense à ces gens qui sont à la fois des figures et, d'une certaine façon, hélas, des caricatures. Je préfère la figure, bien sûr.
Mais la caricature fait partie de la figure.
Elle fait figure. Et puis, elle est effectivement très proche de nous.
René Merle, merci d'avoir passé ces 4 jours avec nous. Demain, nous retrouverons Jean-Paul Damadio, qui est un de vos confrères, et qui nous parlera des révoltes plutôt en Gascogne, côté entre l'Aveyron et le Gers, via le Tarn et le Lot-et-Garonne. Je rappelle que On peut retrouver toutes les données, tous les articles, tous les documents sur le site 1851.fr. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs romans policiers, dont un qui s'appelle Gentil Naqueneuil et qui baigne, qui prend ses sources et ses racines dans l'histoire que nous avons racontée pendant ces 4 jours. Vous êtes l'auteur aussi, plus récent, d'un livre assez original. Vision de l'idiome natal, l'enquête impériale sur les patois, qui date de 1807. À quelle maison d'édition ?
Ce sont les éditions Traboucaire au Canet, près de Perpignan.
Voilà, car je ne l'ai pas dit, mais vous êtes un spécialiste du provençal et du destin des langues romanes méridionales. Merci à vous, René Merle.
Merci.